Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Mission des 12 disciples.
Lecture de la parole. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits immondes pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. Or ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques le fils d'Alphée, et Lebé, surnommé Thaddée, Simon le Cananéen, et Judas l'Iscariote, qui aussi le livra. Jésus envoya ses 12 et leur donna des ordres disant, « Ne vous en allez pas sur le chemin des nations, et n'entrez dans aucune ville de Samaritains. » Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne faites provision ni d'or, ni d'argent, ni de cuivre dans vos ceintures, ni d'un sac pour le chemin, ni de deux tuniques, ni de sandales, ni d'un bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne, et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et quand vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour de jugement que celui de cette ville-là. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, et simples comme des colombes. Et soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin, et vous fouetteront dans leur synagogue, et vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations. Et quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné dans cette heure-là ce que vous direz. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand on vous persécutera dans cette ville, fuyez dans l'autre. Car, en vérité, je vous dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître, et à l'esclave qu'il soit comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, combien plus les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la gêne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre père. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée, car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits, en qualité de disciple, en vérité, je vous dis, il ne perdra point sa récompense.
Lecture de l'étude. À la fin du chapitre précédent, Jésus avait dit aux disciples de supplier le Seigneur de la moisson afin qu'il poussât des ouvriers dans sa moisson. Ici, il les envoie lui-même. Car malgré son abaissement, il est néanmoins le Seigneur de la moisson, comme aussi Seigneur de tout. Et il se révèle comme tel en faisant annoncer à son peuple que le royaume des cieux s'était approché. Aujourd'hui, il se sert de son autorité pour donner la vie éternelle, comme nous le lisons en Jean 17, versets 1 et 2. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Plus tard, le Seigneur usera de cette même autorité pour exercer le jugement sur ceux qui n'auront rien voulu de lui durant le temps de sa longue patience. Jésus appelle ses 12 disciples, nommés apôtres ou envoyés, et les envoie deux à deux, afin qu'ils annoncent aux Juifs que le royaume des cieux s'est approché. Nous avons déjà dit que ce qui caractérise l'Évangile selon Matthieu, c'est que Jésus se présente comme Messie à Israël. Ce fait ressort bien nettement des instructions qu'il donne à ses disciples. Ne vous en allez pas sur le chemin des nations, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, versets 5 et 6. C'est à Israël déjà que Jean le baptiseur s'était adressé, et maintenant c'est le Messie lui-même qui fait proclamer au même peuple l'approche du royaume des cieux. En revanche, la prédication de l'évangile de la grâce à tous les hommes n'a eu lieu qu'après le rejet de Christ. Nous avons déjà parlé de la différence qu'il y a entre l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce prêché actuellement. Jésus confère aux 12 le pouvoir d'accomplir des miracles. Ils présentent ainsi au peuple la puissance par laquelle le royaume serait établi, nécessaire pour délivrer l'homme des conséquences du péché et du pouvoir de Satan. En prêchant le royaume des cieux, il devait guérir les infirmes, ressusciter les morts, rendre nets les lépreux, chasser les démons. Toute cette puissance sera de nouveau en activité lors de l'établissement futur du règne de Christ. C'est pourquoi ces miracles que les disciples accomplissaient en prêchant l'Évangile sont appelés, en Hébreux 6, verset 5, les miracles du siècle à venir. Les disciples avaient reçu gratuitement et devaient donner gratuitement sans faire aucune provision pour le chemin. Le roi lui-même les envoyait en Israël, où son autorité devait être reconnue. Plus tard, lorsque le rejet du roi est accompli, quand le Seigneur va à la croix, il parle tout autrement aux disciples, alors les envoyés d'un Christ rejeté. Luc 22, verset 35-36.
Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, Avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils dirent, de rien. Il leur dit donc, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée.
Mais maintenant, les messagers d'une nouvelle aussi réjouissante que celle de l'approche du royaume des cieux allaient mettre le peuple à l'épreuve. Ceux qui les recevaient jouiraient de la paix qu'on leur apportait. Tandis que, si la maison dans laquelle les disciples entraient était indigne, et qu'ils n'y fussent pas reçus, en sortant ils devaient secouer la poussière de leurs pieds en témoignage contre elle. Le Seigneur ajoute, en vérité, je vous dis, le sort du pays de Sodome et de Gomorre sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Tout grossier pécheur que fussent les habitants de ces villes, ils ne seront pas responsables d'avoir méprisé un privilège tel que celui de ces villes d'Israël, qui, au lieu de recevoir le Messie dès longtemps annoncé par les prophètes, le mirent à mort. Aussi, après ce rejet, le temps de la longue patience de Dieu envers son peuple arriva à son terme. Israël fut rejeté et dispersé parmi les nations jusqu'au moment où il sera ramené et béni selon les promesses immuables de Dieu, en vertu du sang de la nouvelle alliance répandue sur la croix. Jusqu'au verset 15, le Seigneur donne aux disciples les instructions concernant leur service exclusivement pendant le temps qui s'est écoulé avant sa mort, et ensuite celles qui ont une portée plus générale et embrassent toute la période qui s'écoule entre sa première venue et sa venue glorieuse comme Fils de l'homme, verset 23, mais toujours en rapport avec Israël. Car, après la mort du Seigneur, les disciples ont encore exercé leur ministère au milieu du peuple, premièrement, avant d'aller annoncer l'Évangile aux nations. C'est alors qu'ils devaient être prudents comme des serpents, simples comme des colombes, car ils étaient comme des brebis au milieu des loups. Prudents comme des serpents, cela veut dire qu'il faut tenir compte de l'opposition qui existe dans un milieu ennemi, en ne faisant rien qui ne soit nécessaire au bien de la cause que l'on sert. D'un autre côté, il faut être simple comme des colombes, agir sans calcul dès que l'on a discerné qu'il faut agir. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, sans s'inquiéter des conséquences, puisqu'il faut parler. Comme envoyés du roi rejeté, les disciples seraient livrés au Sanhédrin, fouettés dans les synagogues, menés devant les gouverneurs et les rois, à cause du Seigneur, et en témoignage aux Juifs et aux nations. Aucune de ces tribulations ne leur arriva pendant que le Seigneur était encore avec eux, tandis que, immédiatement après sa mort, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils les rencontrèrent toutes. Tout cela aura lieu de nouveau après l'enlèvement de l'Église et avant l'arrivée du Fils de l'homme pour ceux qui annonceront l'établissement du royaume par Christ. Mais ce temps sera court. C'est pourquoi le Seigneur, quand il en parle, dit « Vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme ne soit venu » verset 23, lors de cette apparition qui sera aussi soudaine que celle de l'éclair, chapitre 24, verset 27.
Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme.
Jésus donne à ses disciples toutes les instructions et les encouragements nécessaires durant la période de leur ministère au milieu des Juifs, qui s'écoule donc dès le moment de leur mission jusqu'au temps où le Seigneur reviendra pour établir son royaume en gloire. Ces encouragements et ces instructions s'appliquent aussi aux serviteurs et aux témoins du Seigneur actuellement, car l'opposition avec laquelle les croyants de tout temps ont affaire porte toujours le même caractère. Le cœur naturel étant opposé à Dieu est la lumière et la vérité, sous quelque forme que ce soit qu'on les présente, et surtout si l'on se déclare pour Christ dans le monde qu'il a rejeté. Les disciples ne devaient pas être en souci lorsqu'ils avaient à répondre à ceux auxquels ils seraient livrés. Si le Seigneur les laissait ici-bas, il leur enverrait le Saint-Esprit qui est un esprit de puissance et d'amour et de conseil, de Timothée 1, verset 7, et leur fournirait les paroles qu'ils auraient à dire. Il est dit, en Luc 21, verset 15, « Car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. » Voir aussi Marc 13, verset 11.
Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas votre discours, mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint.
La haine pour le Seigneur est capable d'étouffer tous les sentiments naturels. Un frère peut livrer son frère à la mort, un père son enfant, des enfants leurs parents, verset 21. L'histoire de l'Église n'a fourni que de trop nombreux exemples de cette triste vérité, et, chose humiliante à constater, de tels faits ne se présentent guère que lorsqu'il s'agit des intérêts de Christ. Il y a bien eu des sujets de divisions et de guerres en dehors de la cause de la vérité, mais aucun de ces motifs n'a poussé l'homme dans un état de haine pareil qui l'empêche de tenir compte des affections les plus intimes, ainsi qu'on l'a vu dans toutes les persécutions endurées par les fidèles, tant de la part des Juifs que de la part de Rome païenne ou chrétienne. Quelle triste preuve le cœur humain a su donner de son inimitié contre Dieu, surtout lorsqu'il a eu affaire à la grâce. Combien cela fait ressortir la grandeur infinie de l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique afin de pouvoir pardonner de tels péchés et amener par la foi de tels pécheurs en relation avec lui comme de bien-aimés enfants. Les disciples devaient se souvenir que tout ce qui leur serait fait avait été fait à leur maître. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur, verset 24-25. C'est encourageant de penser que le Seigneur a passé le premier par les épreuves et les souffrances, lui qu'on a même osé appeler Béelzébul. Rien d'étonnant alors à ce que l'on traite les serviteurs comme l'on a traité le maître. Mais ils ne doivent pas craindre les hommes, tout méchants qu'ils soient, car Dieu amènera un jour tout en lumière. Qu'ils parlent hardiment. Leur témoignage peut les conduire à la mort, mais qu'ils ne craignent pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. C'est Dieu qu'il faut craindre, lui qui peut détruire l'âme et le corps, verset 26-28. Le Seigneur montre d'une manière touchante que Dieu s'occupe de tous les plus petits détails relatifs aux siens et que rien n'arrive sans sa volonté. Les passereaux ont peu de valeur pour les hommes, puisqu'on en vend deux pour un sou. Cependant, pas un ne tombe en terre sans la permission de notre Père. Pour montrer la grandeur de l'intérêt que Dieu porte aux siens et combien il entre dans tout ce qui nous concerne, le Seigneur dit, pour vous, les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux, verset 29-31. Ces paroles qui ont encouragé les disciples de tous les temps, sont aussi pour nous maintenant une source de paix et de repos. Quoique nous ne passions pas par les persécutions violentes des temps écoulés, nous avons constamment besoin de nous souvenir que notre Dieu et Père prend soin de tous nos intérêts avec un amour plus grand que celui d'une mère, afin que, rejetant sur lui tous nos sujets d'inquiétude, nous puissions le servir sans distraction. Quelle mère compterait les cheveux de ses enfants? David avait déjà connu les tendres soins et la bonté infinie de Dieu lorsqu'il disait « Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, verset 10. Nous confiant ainsi en l'amour de Dieu, ne craignons pas les conséquences de la fidélité quand nous confessons le nom du Seigneur, quoi qu'il puisse nous en coûter. Car un jour vient où cette fidélité trouvera sa récompense dans le ciel. Là, dans la présence de son Père, le Seigneur mentionnera par leur nom ceux qui auront été fidèles, tandis qu'il reniera ceux qui auront eu honte de lui sur cette terre, verset 32-33. Ces timides dont il est parlé en Apocalypse 21, verset 8, qui auront leur part avec tous les grossiers pécheurs dans les temps brûlants de feu et de soufre.
Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec les abominations et aux meurtriers et aux fornicateurs et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort.
Quoique les disciples annonçassent le royaume des cieux et que le roi fût présent dans la personne de Jésus, ils ne devaient pas croire que le Seigneur fût venu mettre la paix sur la terre. Il le fera un jour. Pour cela, il ôtera tous les méchants par les jugements. Mais il était là en grâce et n'exécutait point de jugement. C'est pourquoi, à cause de la méchanceté des hommes, l'effet de sa venue n'était pas la paix. Au contraire, comme on l'a déjà vu au verset 21. Aujourd'hui, Dieu supporte le méchant qui s'élève contre celui qui a reçu le Seigneur, et le croyant doit le supporter, mais sans redouter les souffrances qui découlent de sa fidélité. Le Seigneur montre, versets 36 à 39, qu'il ne faut pas renier la vérité pour éviter la guerre qui peut avoir lieu dans la famille même. Si, pour ne pas avoir à souffrir l'opprobre, quelqu'un aime mieux plaire au sien qu'au Seigneur, il n'est pas digne de lui. Il faut prendre sa croix et le suivre, c'est-à-dire réaliser la mort à tout ce que la chair peut aimer, si ce qu'elle aime tient une place qui appartient à Christ et empêche, par conséquent, de lui obéir. Non seulement il faut renoncer à tout ce qu'il y a de plus intime dans sa propre famille, mais à sa propre vie. Car si l'on aime son existence ici-bas plus que le Seigneur, on la perdra. Et si, pour l'amour de Jésus, on la perd, c'est-à-dire en ne cherchant pas sa propre satisfaction, on la trouvera, et cela pour l'éternité, versets 40 à 42. Le salut de tout homme dépend de la réception de la parole de Dieu annoncée par ses serviteurs. Celui qui reçoit l'un d'eux comme lui apportant cette parole, reçoit le Seigneur lui-même, et celui qui le reçoit, reçoit Dieu qui l'a envoyé. Il en est de même pour celui qui reçoit un prophète. Parce qu'il est un prophète envoyé de Dieu, il a, aux yeux de Dieu, la valeur d'un prophète. De même pour un juste. Celui qui aura donné à un petit, à un croyant, un verre d'eau froide, parce qu'il est un disciple de Christ, ne perdra pas sa récompense. La valeur de nos actes dépend des motifs qui les font accomplir. La personne de Jésus a un tel prix pour Dieu que tout ce qui est fait pour lui, dans ce monde qu'il a rejeté, a un prix inestimable, qui sera manifesté par la récompense que Dieu accordera à ceux qui auront fait quelque chose pour son Fils bien-aimé. Le salut dépend absolument de l'accueil fait à Christ et à sa parole, puisque, par des œuvres, personne ne peut l'obtenir. Quand le Fils de l'homme viendra et s'assiera sur le trône de sa gloire, avec les nations rassemblées autour de lui, ce qui permettra à ceux qui sont à sa droite d'entrer dans le royaume, ce sera le fait d'avoir reçu les envoyés du Seigneur, ceux qu'il appelle ses petits, et de leur avoir fait du bien, car en les recevant, ils l'auront reçu lui-même. Matthieu 25, versets 31 à 46.
Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais infirme, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus auprès de moi. » Alors les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison, et que nous sommes venus auprès de toi ? Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif ou être étranger ou nu ou infirme ou en prison et que nous ne t'avons pas servi ?» Alors il leur répondra disant, « En vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels et les justes dans la vie éternelle. »
C'est de ces envoyés qu'il est question dans ce chapitre 10. L'opposition du monde à Christ est telle que le Seigneur dit en Marc 9, verset 40, « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » N'oublions pas, chers lecteurs, que si le salut dépend simplement de l'acceptation de Christ par la foi, il a fallu que ce précieux Sauveur souffrit sur la croix tout ce que nous avions mérité. Pour ceux qui l'ont reçu, combien cette seule pensée doit les engager à le suivre et à être ses fidèles témoins. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, peut-il y avoir quelque chose de plus grand que cet amour pour attirer leur cœur, afin qu'ils ne négligent pas plus longtemps un si grand salut? Car comment échapper au jugement si l'on ne croit pas en celui qui a porté ce jugement à la place du coupable ?